Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien c'est le 1 712 432 9 978. Alors aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou. Tout de suite, donc, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Sentez-vous bien. Nous sommes aujourd'hui, eh bien, comme à notre habitude, avec le docteur Jean Lindsay. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Et alors aujourd'hui, eh bien, il sera question de sport.
Oui.
Et vous allez nous parler d'une étude comparative entre le sport d'intérieur et le sport d'extérieur.
Oui, 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 tout à fait. C'est un sujet qui émerge beaucoup tout de suite. Alors ce que nous allons exposer est tiré d'une très bonne revue qui s'appelle Sport et Vie, qui de janvier-février 2023.
Et alors donc, ça fait une différence, ça, de faire du sport à l'intérieur ou à l'extérieur?
Ben, ça semble bien le cas, oui.
Oui.
Alors les hypothèses, oui, il y a beaucoup de travaux, ça fait un moment qu'on parle du syndrome de privation de nature. Le fait, l'homme est fait pour vivre dans des espaces verts, dans de la verdure. Voilà. Ben, c'est pas étonnant, étant donné qu'on en vient et que nous nous sommes fabriqués des environnements artificiels dans lesquels on passe beaucoup, de plus en plus de temps. Il y a eu une période intermédiaire pendant laquelle on passait du temps dans des abris pour être protégé la nuit, protégé du froid, des animaux. Mais on sortait beaucoup. Maintenant, on reste à l'intérieur des maisons. Il y a des gens qui passent tout leur temps à l'intérieur de maisons. Et on n'est pas fait pour ça.
Et alors donc, quand on parle d'extérieur, il faut encore faire une différence entre un environnement urbain et un environnement naturel.
Oui. Alors, on s'est demandé pourquoi. Eh ben, en fait, il semblerait que quand on se promène dans la nature, on est plus focalisé. Si vous voulez, quand on est à l'intérieur d'une maison, on a l'attention qui est focalisée sur une chose.
Oui.
On écoute, on regarde la télévision, on écoute la radio, on est sur Internet, on fait qu'une chose, on est concentré. Tandis que quand on est dans la nature, on a une attention dispersée. On regarde un peu tout. Et ça, c'est très bon. Parce que ça restaure l'attention. On n'est pas fait pour être focalisé tout le temps. Alors que là, on est en attention involontaire, spontanée. Et il semble bien que ça ait un intérêt, puisqu'en imagerie cérébrale, on voit qu'on a à ce moment-là un regain d'activité des zones cérébrales liées à la concentration et à la créativité.
Juste le fait de s'activer.
Se promener dans la nature.
Dans un espace naturel.
Dans le vert avec de la chlorophylle.
À l'extérieur.
Oui.
Voilà. Et ça a eu une incidence aussi, je crois, sur tout un tas de paramètres, biologiquement parlant.
Oui, on a noté qu'on avait, quand on fait de la marche ou du vélo dans la nature, eh bien, on a une diminution de la perception de la douleur. Donc on peut aller plus loin.
Oui.
Et on a remarqué, par exemple, que quand on demande à des cyclistes de forcer sur un vélo, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, eh bien, on trouve une différence significative. Hein. Dans un cas, on atteint 208 watts et dans l'autre, 163. Et la fréquence cardiaque aussi passe de 152 dehors et de 148 à l'intérieur. On se dépasse plus à l'extérieur.
D'accord. Il y a encore d'autres informations qui révèlent cette étude?
Mais c'est un article, hein, un article qui s'appuie sur beaucoup d'études.
Mmh.
On s'est demandé si c'était seulement additif ou si c'était découplé. Est-ce que le fait d'aller dans la nature, ça fait du bénéfice, ça donne du bénéfice, avoir de l'activité physique, ça fait du bénéfice, mais est-ce qu'aller dehors et avoir de l'activité physique, les deux combinés, est-ce qu'on est bien sûr qu'il y a une addition et qu'il n'y a pas un biais de recrutement? Alors là, il y a une étude australienne sur 260 000 Australiens. On a noté que l'augmentation des espaces verts n'avait pas eu d'effet bénéfique sur la santé mentale des personnes les moins actives, alors que c'était le cas pour les sportives. On en conclut donc que le rôle bénéfique pour la santé de la nature est plus élevé quand il est couplé à une activité physique. C'est bien additif.
Donc, c'est bien de faire de l'activité physique dans la nature. Les deux combinés sont très bénéfiques.
Alors, on a cet effet bénéfique qui agit aussi, c'est bénéfique sur les paramètres biologiques, mais c'est aussi sur la dépression et l'anxiété. Hein. Donc là, on a un levier de santé publique énorme, puisque on a actuellement, dans nos sociétés, on a quand même presque 14% de gens qui sont anxio-dépressifs. Et ça devrait fonder des politiques urbanistiques. C'est-à-dire que sachant cela, il faudrait imaginer des villes, des cadres de vie qui correspondent aux réels besoins de l'homme et pas enfermer les humains dans des appartements qui ne donnent pas sur de la au moins des appartements qui donnent sur la nature ou des habitats pensés pour être intégrés à la nature. Et puis surtout, les cadres de vie, les urbains béton bitume ne sont pas bons pour l'homme. Il faut penser des villes où la nature peut être offerte à l'humain dans son quotidien.
Oui, parce qu'il faut bien dire que quand on parle d'extérieur, il y a une différence entre être dans la nature et être dans un environnement urbain. Hein. Il y a une nette différence.
Ah, oui, là, toutes
même
les
si
études,
on fait de l'exercice physique.
Ah oui, c'est ça. Ce dont nous venons de parler s'appuie sur 28 articles dans des revues scientifiques de bon niveau qui documentent tout cela.
Donc, pour conclure, docteur Jean Lindsay, autant que possible, privilégier l'activité physique en extérieur et plutôt dans la nature.
C'est ce qui explique l'intérêt de ce qu'on appelle les avenues vertes, intra-urbaines.
Voilà. Donc, il y a des choses à repenser.
Oui, il y a des choses à repenser, très nettement. Oui.
Merci beaucoup, docteur Jean Lindsay. C'était Sentez-vous bien. Donc, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de l'importance du sport ou de l'activité physique dans la nature. On se retrouve très vite pour une prochaine émission de Sentez-vous bien. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, Oscar.
The Voice of Hope.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Top Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Présentée par Oscar Miani.
Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jesmylaine Lopez. Bonjour.
Bonjour.
Comme à votre habitude, vous allez nous parler de cuisine dans cette émission. Aujourd'hui, vous nous présentez un dessert.
Un dessert, oui.
La panna cotta au lait de coco, amandes et mangue.
Exactement.
Donc, la panna cotta, c'est un dessert italien à l'origine. Hein,
oui.
Mais que vous avez revisité.
Et oui.
Et alors, donc, quels sont les ingrédients que vous nous proposez d'utiliser pour cette panna cotta?
Panna cotta d'origine, normalement, c'est avec du lait et de la crème fraîche. Donc, j'ai pris la recette de base et je l'ai changée. J'ai remplacé les ingrédients pour le lait de coco et le lait d'amande.
D'accord. Et alors, combien il en faut de lait de coco et combien de lait d'amande?
Il nous faut 400 ml de lait de coco, 400 ml de lait d'amande, 100 g du sucre en poudre, une gousse de vanille, ou sinon, si vous avez des vanilles en poudre aussi, ça va bien, et 5 feuilles de gélatine alimentaire. Et puis, si vous voulez bien, mais ça c'est facultatif, 100 g d'amandes en poudre.
D'accord. Pourquoi c'est facultatif?
Parce que même si on ne les met pas, ça va bien, parce qu'on a déjà le lait d'amande dedans.
D'accord.
C'est juste pour avoir un peu plus de goût à l'amande. Et pour ceux qui aiment bien mâcher des choses dans le dessert,
un petit peu de grains
d'amande là-dedans.
D'accord.
Top Cuisine.
Ça, c'est pour la panna cotta.
La base, oui.
Comment est-ce que vous utilisez ces ingrédients? Alors, comment ça se passe?
Alors, c'est très facile. Vous prenez une casserole assez haute.
Oui.
Donc, vous mettez le lait de coco, le lait d'amande, le sucre et la gousse de vanille. Vous mettez tout ça dans la casserole, vous mettez sur le feu et vous les faites chauffer des préférences à 80 degrés.
Il faut porter jusqu'à ébullition ou il faut arrêter juste avant?
Il faut arrêter jusqu'avant.
Il ne faut pas que ça boue.
Il ne faut pas que ça boue. Ou sinon, vous pouvez les faire dans les bains-maries en mélangeant ces ingrédients-là dans les bains-maries.
D'accord. On a compris, on a utilisé le lait de coco, le lait d'amande, le sucre, la gousse de vanille.
Oui.
Ça, c'est fait. Ensuite, on laisse de côté?
J'ai oublié de vous préciser. Avant de commencer cette préparation, vous prenez la feuille de gélatine alimentaire et vous la trempez dans l'eau chaude.
D'accord. Ça, c'est avant de faire le mélange dans la casserole.
Oui, des préférences parce que ça, on gagne un peu plus de temps.
Et on en fera mollir plusieurs, cinq.
On met tous les cinq,
d'accord.
Mais dans l'eau chaude, mais pas beaucoup de l'eau chaude. Je n'ai pas précisé la quantité de l'eau chaude, mais on va dire 35-40.
On les laisse se ramollir dans 35 millilitres d'eau chaude.
Oui, oui. De préférence, dans une assiette qui ne soit pas très profonde.
Creuse.
Creuse. Mmh. On va faire en sorte que la gélatine elle soit bien disposée.
Oui, d'accord.
Et comme ça, on aura moins de la quantité d'eau.
C'est important de ne pas mettre trop d'eau?
Oui, c'est important parce que ça va faire la différence dans la recette.
D'accord.
Oui.
D'accord. Donc, le moins d'eau possible pour ramollir les feuilles de gélatine.
Les feuilles, oui. L'eau chaude.
Dans l'eau chaude. Comment ça se passe avec cette préparation aussi qu'on a déjà portée presque à ébullition?
Donc, on prend cette préparation qu'on avait déjà faite et on va prendre la feuille de gélatine, que ce n'est plus la feuille de gélatine, elle va être...
Mais qui est du liquide, en fait.
De liquide. Mm-hmm. On va les mettre petit à petit et on va bien fouetter. Il faut mettre des quantités très réduites.
Pas tout
réduites.
D'un coup. Pas
non,
tout d'un
oui,
coup.
Oui, oui,
il faut faire doucement.
Très doucement.
D'accord.
Parce que sinon, on aura les morceaux de la gélatine dans la préparation.
D'accord. Donc, on a intégré la gélatine à la préparation.
Oui.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire?
On peut mélanger un peu de citron râpé. On va râper un citron. Il faut que ce soit un citron bio et bien lavé parce que c'est la peau de citron. Ça va donner aussi un goût spécial à la recette.
D'accord. Donc, ça, c'est dans la panna cotta qu'on rajoute le citron.
On va rajouter des citrons râpés, mais ça, c'est facultatif.
D'accord. Et une fois qu'on a mis ce citron, notre panna cotta est prête?
Notre panna cotta, elle est prête.
Et qu'est-ce qu'on fait?
Donc, à ce moment-là, on va répartir la préparation dans les verrines.
D'accord.
On peut dire comme ça.
D'accord.
Ça va dans 5-6 verrines.
D'accord. D'accord.
La quantité.
D'accord.
Ça donne pour 6 personnes.
D'accord.
En fait.
Donc, et ça, on met au frigo.
Et après, vous mettez au frigo.
Au frigo, pendant combien de temps?
Minimum 4 heures. Il faut que ça soit bien épais.
Il faut
épais.
Que ça s'épaississe.
Il faut que ça s'épaississe, mais que ça ne devienne pas dur.
Dur. Il faut que ça reste onctueux, un peu épaissi,
oui,
mais pas dur.
Mais pas dur.
D'accord.
Oui.
C'est toute la réussite de la recette.
Il faut que quand on la met dans la bouche, ça se fond très doucement.
D'accord, mais pas quelque chose de dur.
Oui.
Donc, ça, on laisse au frigo. Et pendant ce temps-là, il faut préparer le coulis.
Le coulis de mangue.
Vous avez choisi un coulis de mangue.
Oui. J'ai choisi un coulis de mangue, mais vous pouvez mettre d'autres choses.
Fruits rouges.
Les fruits rouges.
Ou ce qu'on
du
veut,
chocolat.
En fait. Du caramel.
Du caramel. Ah, oui.
Top cuisine.
Et alors, quels sont les ingrédients dont on a besoin pour préparer ce coulis de mangue?
On aura besoin d'une mangue bien mûre.
Oui.
On va l'éplucher. On aura besoin de 25 ml de jus de citron, 20 ml d'eau en blender pour mixer tout ça.
Oui.
Et 10 à 20 g du sucre en poudre.
D'accord.
Et si vous aimez bien les citrons, on peut mettre un peu de citron râpé, 3 g de citron râpé.
D'accord.
Une fois qu'on a tout ça, on met dans les blenders. Tout simplement, on va les mixer.
On mixe tout ça ensemble.
On mixe tout ça, mais il faut que ça soit une crème bien onctueuse.
Voilà. Et là, c'est ça y est, on
et
a,
là,
on
c'est
a notre
bon,
coulis.
C'est
on
bon. A... Ah, j'ai oublié de préciser. Il y a la crème, elle peut être plus épaisse ou moins épaisse, ça dépend.
Le coulis ou le
les coulis,
coulis. Vous
les
voulez dire
les coulis.
Le coulis, et il peut être plus ou moins épais selon comme on l'aime.
Oui. Alors, une fois que notre coulis il est prêt,
oui.
On va prendre la recette qui était dans le frigo. Elle a resté normalement 4 heures minimum.
Oui.
On va le prendre, on va le verser sur les 6 verrines.
Oui.
Les panna cotta qu'on avait préparées.
D'accord.
Et puis c'est bon à manger.
C'est prêt.
Et puis si vous aimez bien que ça soit un peu croquant, vous pouvez mettre râpé de coco et de l'amande par-dessus.
D'accord.
Ou sinon, vous pouvez mettre des céréales que vous aimez bien par-dessus.
Ah oui, par-dessus le coulis.
Oui, par-dessus le coulis, vous pouvez rajouter encore des choses.
D'accord. Oui. Donc, panna cotta au lait de coco, amandes et mangue.
Et mangue.
Voilà. Merci beaucoup, Jasmilène, pour cette recette qui nous donne l'eau à la bouche. C'était Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Et la prochaine fois, vous nous parlerez d'un jus vitaminé, c'est ça, hein?
La prochaine fois, je vais vous parler du jus vitaminé pour faciliter les transits.
Eh bien, on se retrouve bientôt.
Au revoir.
Au revoir, Jasmilène.
Au revoir, Oscar.
C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
You may ask me, why do you serve the Lord? Is it just for heaven's gain? Or to walk those mighty streets of gold, or to hear the angels sing? Is it just to drink from that fountain that never shall run dry? Or is forever, ever and ever, in that sweet home by and by. But if heaven never was promised to me, neither God promised to live eternally, it's been just having I was living in a world of darkness, but he brought me the light. He's been my closest friend down through the years. And every time I cry, you know he dries all of my tears. It's been worth just having the Lord in my life. I was living in a world darkness, but he brought me the light. If there were never any streets of gold, neither a land where we will never grow old, it's been worth just having the Lord in my life. I was living in a world of darkness, but he brought me the light. You know I was living in a world of darkness, but he brought me the light. I was living in a world of darkness, but he brought me the light.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu !» bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. « Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » Amical. mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. » Les plus attentifs auront reconnu les premiers vers de la scène 4 de l'acte 1 de Cyrano de Bergerac, célèbre tirade où Cyrano parle de son nez qu'il avait très long. Alors pourquoi commencer par cet extrait du Cyrano de Bergerac? C'est un clin d'œil, en fait, à la racine du mot « patience » en hébreu. Nous trouvons en effet dans la Bible ce mot « patience » erek apayim, qui littéralement veut dire « nez long ». Car celui qui a un long nez sait respirer profondément et ainsi retenir sa colère et rester patient. Lorsque nous nous tournons vers le Nouveau Testament, nous avons trois mots principaux pour la patience. Le premier reprend la même idée, il veut dire littéralement « qui a un souffle long ». Le deuxième porte l'idée de se tenir droit, c'est-à-dire supporter, laisser passer sans broncher quelque chose qui fait mal. Et le troisième, l'idée de tenir bon, de résistance, de persévérance. Être patient, c'est supporter, persévérer, endurer, attendre. Mais pourquoi ? Peut-on parler de la même façon de la patience face à la faiblesse de l'autre, à ses limites ? Ou alors en parler face à un comportement injuste ? Doit-on être patient de la même façon à la caisse du supermarché parce que devant nous, une personne âgée prend du temps pour discuter avec l'employé ? Ou alors à l'arrêt dans sa voiture parce que le conducteur devant nous parle par la fenêtre avec un piéton et bloque ainsi toute la circulation ? Nous ne listerons pas, bien sûr, toutes les situations de la vie courante où nous avons à être patients. Et il existe sûrement des situations où le bon sens nous amènera à comprendre que la patience a assez duré. Mais là aussi est le piège. Si je m'écoute, il y a beaucoup de situations, des plus bénignes aux plus importantes, où je n'ai pas vraiment envie d'être patient et où j'aurais de très bonnes raisons de ne pas l'être. Et pourtant, nous sommes invités à avoir le nez long, à patienter. C'est bien l'idée que nous retrouvons dans cette maxime. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je résumerai en fait les situations qui se présentent à nous en deux catégories. La première, quand tout nous dirait que rien ne justifie d'être patient, qu'on aurait toutes les bonnes raisons de ruer dans les brancards. Paul nous dit dans la Bible « Comportez-vous avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » On entend bien à la lecture que le programme n'est pas simple et qu'il faut s'y efforcer. Mais Paul nous dit que nous pouvons agir sur les sentiments de l'autre en restant patient et l'amener ainsi à prendre conscience de son mauvais comportement. La patience peut donc être une forme de non-violence. Mais j'ai envie de dire que même si vous ne le faites pas pour l'autre, faites-le pour vous. Être patient peut vous permettre de relativiser, d'être à la juste distance d'événements qui, admettons-le, ne justifient pas toujours notre colère. Et parfois, peut-être souvent, nous pourrions être surpris de voir que telle ou telle situation qui nous rend impatients peut se justifier aux yeux de quelqu'un d'autre. La seconde catégorie est quand nous ne pouvons vraiment rien faire. La vertu de la patience ne sera donc pas de changer les choses en elles-mêmes, puisque nous n'avons pas de pouvoir sur elles, mais de changer notre attitude, notre état d'être face à une épreuve ou une attente. Une journée ne suffirait pas pour lister toutes les occasions où nous sommes obligés d'être patients et confrontés à l'impuissance. L'attente des résultats d'un examen médical, l'attente que le traitement médical produise les effets espérés, l'attente d'un enfant parti loin en mission à l'étranger, l'attente que l'autre prenne conscience de ses erreurs. La vertu de la patience ne sera donc pas, je me répète, de changer les choses en elles-mêmes, puisque nous n'avons pas de pouvoir sur elles, mais de changer notre attitude, notre état d'être face à une épreuve ou une attente. Être patient, dans ces situations bien particulières, c'est refuser de rentrer dans un combat qui n'est peut-être pas le nôtre. Je ne parle pas ici ni de jeter l'éponge, ni de renier le sentiment d'injustice qui nous habite. Mais face à notre impuissance, s'efforcer de faire confiance à celui qui peut tout. Croire que Dieu, celui à qui rien n'est impossible, ne nous abandonne jamais, même dans ces situations où nous sommes démunis. Et que notre patience, loin d'être un manque de courage, peut ouvrir de nouveaux horizons, de paix et de confiance.
C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.